L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Grand Place de Bruxelles, un jour de grand soleil et de liesse populaire. Les rues du centre de la capitale du royaume, aujourd'hui, sont noires et blanches. En effet, le poumon de l'Europe vient de prendre subitement et en l'espace de quelques heures un accent bien italien. Et pour cause, l'équipe sportive la plus iconique du Piémont dans quelques heures disputera ici l'un des matchs les plus importants de son histoire récente. Le Heysel ce soir va en effet être le théâtre d'une finale, celle de la Coupe des clubs champions, le trophée continental le plus en vue du moment. Les supporters du club adverse, eux, ne sont pas encore arrivés pour marteler les pavés de la capitale. Ah, ils sont loin d'être considérés comme des tendres. Liverpool, en effet, est l'équipe à battre depuis plusieurs années. Véritable rouleau compresseur, les Reds peuvent compter sur des supporters comme il n'en existe nulle part ailleurs. Inutile de dire donc que la partie de ce soir revêt des enjeux d'importance. Keith Cooper le sait pertinemment. Le responsable des relations publiques de l'UEFA, l'instance du football européen, est en direction de l'hôtel de ville. Une réception entre VIP s'y tient. Le moment se veut heureux. Mais Cooper, lui, entre du Heysel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait grise mine. Et pour cause, le stade ne semble pas prêt. Et pire encore, il est dangereux. Nous sommes le 29 mai 1985. Il est 11h et c'est l'heure H de mon histoire. Keith Cooper est un de ces hommes qui mettent la rigueur et le respect des procédures au cœur de son activité. Chaque fois qu'il est mandaté, comme une routine immuable, il met un point d'honneur à visiter les enceintes sportives qui s'apprêtent à accueillir les matchs à venir. Et dans le cas présent, il est totalement estomaqué. Ben pire, il n'a jamais vu ça. L'homme, costume bleu marine sur les épaules, pénètre dans l'un des plus beaux bâtiments de Bruxelles sans même le regarder. Il est trop préoccupé pour s'arrêter sur les moulures ou la beauté de l'architecture du royaume. Non, lui, tout ce qu'il voit, c'est le morceau de béton qu'il tient entre les mains. Rapidement, il accède au salon de réception en hauteur. Oh, la vue est magnifique. En contrebas, touristes et spectateurs du match se mêlent et distillent une forme de vie toute particulière dans les rues de Bruxelles. Il y a déjà entre les ruelles quelque chose d'électrique qui se passe. Le soleil, immense, souverain, se reflète dans les vitres du bâtiment séculaire. Cooper, lui, cherche un chemin parmi les invités de marque présents en cette fin de matinée. Parmi eux, des ministres venus d'Italie et d'Angleterre, des ministres belges et même le vice-président de la Commission européenne, Étienne d'Avignon. Mais ces pontes-là n'intéresse pas Keith Cooper, affolé par ses découvertes. C'est le secrétaire général de l'UEFA qu'il cherche. Il ne tarde pas à le trouver, entre les petits fours et les coupes de champagne. Le responsable de l'instance joue parfaitement son rôle, entre grand sourire et éclat de rire. Il ne va pas être de bonne humeur pour longtemps. Son subordonné l'attire dans un coin de la pièce et lui présente sa découverte. Monsieur, je dois vous dire que la sécurité du match de ce soir est grandement altérée. Des morceaux de gravats comme celui-ci, voyez, parfois angulaires et tout à fait dangereux, sont présents partout dans les tribunes. On doit faire quelque chose. Mais son supérieur le contemple d'un air incrédule. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quoi, annuler le match? Allons, ce n'est pas sérieux. Les enjeux financiers sont beaucoup trop importants. D'autant plus à quelques heures de l'événement. Cooper et ses doutes sont éconduits d'un revers de bouton de manchette. « Bon, allons, Keith, Pas d'affolement, voulez-vous ? Tout ira bien, vous verrez. Le secrétaire général ne croit pas si mal dire. Cooper, là, rebrousse chemin. Plus inquiet encore que lorsqu'il a passé les portes de l'hôtel de ville il y a quelques minutes. La catastrophe, elle, est déjà en marche. Nous sommes en Angleterre, sur les quais d'un port qui connaît, en cet après-midi de 29 mai 1985, une effervescence pour le moins inhabituelle. Oh, c'est bien simple. Une marée rouge semble l'avoir envahie. Ils sont des milliers à chanter, vociférer, à se prendre par les épaules et à célébrer avant l'heure une finale qui s'annonce palpitante. Au milieu de cette foule de supporters en délire, Terry Wilson est un jeune homme qui bosse comme ouvrier dans un marché aux fruits de la ville de Liverpool. Depuis aussi loin qu'il s'en souvienne, il est un supporter des Reds. Son propre père a entouré son berceau d'une écharpe à l'effigie du club de la Mersey. Alors, lorsqu'il s'est agi d'aller voir une finale de Coupe d'Europe, Wilson n'a pas hésité à demander congé à son patron. Faut dire que Liverpool, depuis près de 10 ans, est un mastodonte de la scène européenne. C'est bien simple. Sur les 8 dernières éditions de la plus prestigieuse compétition européenne, 4 fois, les Reds sont repartis avec le trophée en Angleterre. Pas mal comme bilan. Wilson, entouré de ses potes, attend l'embarquement vers la Belgique, un pays dans lequel il n'a encore jamais mis les pieds. Cette finale de Coupe des clubs champions est une opportunité incroyable pour lui. Un sacre dans cette compète, regroupant les meilleures équipes du monde, donnerait à son club une aura toute particulière. Et puis en face, les Reds vont avoir affaire à des cadors, à la Juventus de Turin. Au-delà de ses stars, dont Michel Platini est le fer de lance, est réputé pour avoir des supporters particuliers. Ils sont au moins aussi chauds que ceux de Liverpool. C'est un euphémisme de dire que regrouper de tels supporters dans une même enceinte, c'est risquer l'embrasement. Mais les autorités compétentes, après tout, ont l'habitude de ce genre de match. Ce n'est pas la première fois que les hooligans de Liverpool se retrouvent au cœur de déplacements périlleux. D'ailleurs, quelque peu éloigné de la bande de Terry Wilson, qui, hilar, se moque d'un gamin qui passe les bras chargés de poiscailles fraîches, un homme, une liste à la main, est chargé de réguler l'embarquement des supporters anglais. Assistant directeur à la police des transports, Ian McGregor est un policier qui connaît bien les stades et les atermoiements provoqués par des groupes de supporters radicalisés. Le quadragénaire aime son boulot. Ces gars, oh, il les connaît bien. Et il parvient toujours à leur faire entendre raison. C'est lui qui, au cœur des succès européens de Liverpool, permet aux autorités, qu'elles soient étatiques ou consulaires, d'obtenir toutes les infos au sujet des supporters en provenance de la Mersey. Le chef de bord du navire, qui s'apprête à faire grimper la foule en délire à bord, vient justement le trouver. Il connaît la chanson. On a d'ores et déjà vidé les bars de toute trace d'alcool. Impossible d'avoir un débordement lié à la boisson ce soir. McGregor hoche la tête, en signe d'approbation. Tout se passe comme sur des roulettes. Oh, la routine, en somme. Non, il est clair que l'officier de police n'est pas inquiet. C'est loin d'être sa première expérience en la matière. Et de toute façon, le Hazel est un stade qu'il connaît. Assez grand pour accueillir près de 60 000 spectateurs, divisés en zones de parkage lettrées, permettant une nette séparation des supporters rivaux. Le géant est réputé pour être l'un des plus beaux et des plus sécurisés d'Europe. À côté de lui, un sac de voyage. Le policier a apporté une tenue civile. Il n'a pas le droit de porter sa tenue une fois que le navire a accosté sur le continent. Jean, basket, t-shirt blanc. Il sera comme toujours incognito et n'aura surtout plus aucune autorité. Aux Belges de gérer, c'est la règle. Ian McGregor est tellement à l'aise qu'il se permet de discuter avec l'un ou l'autre groupe, leur demande de rester tranquille. Et chaque fois, la réponse est affirmative. Donc tout semble sous contrôle. Demain soir sera une grande fête de football, une liesse populaire, comme seul le sport est capable de créer. Terry Wilson, lui, a hâte de pouvoir supporter son équipe, d'écraser la Juve, ces Italiens que la modestie n'étouffe pas. Non, le flic se trompe et lourdement. Couvre dans les rangs une atmosphère on ne peut plus particulière. C'est en effet un match sous haute tension qui se prépare, ça ne fait aucun doute. Déjà, parce qu'il y a l'enjeu d'une suprématie continentale qui se joue sur le terrain. Liverpool est une machine de guerre, tenante du titre, qui rafle tout depuis des années. Les joueurs de Turin, eux, emmenés par Schiria ou Platini, ont donc le couteau entre les dents. Battre les Reds, d'autant plus lors d'une finale européenne en 1985, relève d'un exploit que peu ont réussi jusqu'alors. Le lendemain, jour du match, dès les premières lueurs du jour, la capitale du royaume se teinte de blanc et noir, les couleurs de l'équipe italienne. Wilson et ses potes, eux, sont toujours dans le train. Lorsqu'ils arrivent, la police, qui encadre les abords du stade avec une sévérité extrême, remarque que l'ambiance est bon enfant. Certains notent même que des supporters adverses s'échangent écharpes et maillots, entonnent des chants et discutent dans un respect non fin. Le football, peut-être plus qu'aucun autre sport du fait de sa popularité incroyable, est bien souvent magique, car capable de créer des moments de fraternité et d'amitié comme à nul autre pareil. Pour les autorités, difficile de faire plus rassurant que ces scènes de liesse partagée. La rivalité sur le terrain, oui, mais avant toute chose, cela doit s'accompagner du respect dans les tribunes. Et parlons-en des tribunes. Le Heysel est une enceinte sportive connue et reconnue sur tout le continent. Autrefois nommé Stade du Centenaire, en référence à l'indépendance du pays et construit en 1930, l'enceinte est donc ancienne et a connu de nombreux matchs. Plusieurs finales européennes s'y sont déjà jouées. Mais son influence ne se limite pas au ballon rond. Marcel Cerdan y a disputé un match de boxe à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis la fin des années 70, c'est le Mémorial Van Damme, une grande compétition annuelle d'athlétisme qui s'y tient. Entre 1977 et 1979, le Heysel a d'ailleurs été rénové à grands coups de millions afin de lui permettre de continuer d'accueillir des matchs de grande ampleur. Alors, lorsque la ville de Bruxelles fut choisie en 1985 pour être le lieu de cette grande finale, toutes les instances, qu'elles soient sportives ou politiques, furent très heureuses. Oui. Oui, mais voilà. À 11h. À quelques heures de la rencontre, comme nous venons de le voir, le responsable des relations publiques de l'UEFA a trouvé de nombreux motifs d'inquiétude. Alors, en mauvais état, le Heysel, alors même qu'il vient de subir, il y a quelques années, une campagne de réflexion? Eh bien, cela semble fou à dire, mais oui. Pire, certains journalistes n'hésitent pas à le qualifier de délabré. Mais les inquiétudes sont balayées d'un revers de la main. La réception est magnifique. Dans les rues, les bières et l'alcool coulent à flot et l'horloge, elle tourne. Les portes du Heysel s'ouvrent à 17h. Le public, déjà nombreux, prend place dans les tribunes, entourant le gazon. La plupart des Italiens, membres de groupes de supporters, sont concentrés autour des parquages sud. En face, côté nord, une marée rouge s'installe, celle des supporters du club britannique. Entre les deux, la tribune Z, la zone tampon. Sa fonction est d'accueillir des supporters neutres. Un public bien souvent familial, venant d'Angleterre ou d'Italie, mais aussi du monde entier. Elle est protégée sommairement par un simple grillage qui doit permettre d'éviter tout débordement entre les parties du stade. La chaleur de cette fin de printemps n'a aucune incidence sur l'ambiance de liesse populaire qui se dégage du stade. Tout va pour le mieux, alors que nous sommes à quelques heures du coup d'envoi. Lorsqu'il s'installe, que ce soit Wilson côté anglais ou les Italiens de l'autre, le constat est le même. Les tribunes sont sales, parfois fissurées même. Des cailloux, du sable, des matériaux qui semblent indiquer une détérioration excessive du lieu. Tout semble porter à croire que le représentant de l'UEFA avait raison de s'inquiéter le matin même après sa visite de l'enceinte. 2 heures avant le coup d'envoi, le stade est plein comme un œuf. L'ambiance est folle, peut-être même trop. Il y a un climat d'électricité dans l'air, une énergie débordante. Il est 18h15, lorsque les équipes arrivent au stade, quelques heures avant le grand coup d'envoi. Les deux équipes se rendent au bord de la pelouse pour sentir le pouls de leurs supporters. Platini et les autres se rendent bien compte qu'il se joue quelque chose de particulier dans les tribunes. Ces échanges de cris, de chants, d'amabilité, déjà parfois, tendent à prouver une chose. Chaque camp de supporters veut absolument obtenir la suprématie dans les gradins. Le 12e homme, comme on dit dans le jargon. Celui qui peut faire gagner un match, faire basculer une rencontre. 18h30. Les équipes viennent de regagner les vestiaires afin de se préparer à ce combat de gladiateurs qui promet un affrontement absolument extraordinaire. Au même moment, pourtant, le destin de cette soirée s'apprête à basculer. Dans la fameuse tribune Z, celle qui est censée faire tampon entre les groupes adverses et accueillir des familles et des spectateurs neutres, des supporters de la Juve se sont regroupés. De l'autre côté du fin grillage, à peine plus solide qu'une clôture d'habitation, les supporters des Reds, eux, sont chauffés à blanc. Les forces de sécurité en contrebas sentent que la tension est montée d'un cran. Tout peut basculer d'un instant à l'autre. Au cœur des événements, Wilson, le policier McGregor, le policier Keith Cooper, le représentant de l'UEFA, tous trois semblent sentir l'orage arriver. « 29 mai 1985, un peu plus de 18h30. Dans les tribunes, la situation semble s'envenimer. Collés au grillage près de la tribune Z, Terry Wilson et ses comparses sont en train d'invectiver les supporters adverses. Au sol, des bouts de béton transformés en projectiles servent aux hooligans anglais, dissimulés derrière des casquettes ou des écharpes. Terry Wilson et ses compagnons n'y voient rien d'inhabituel. On se bat dans tous les stades en Angleterre. Mais ici, la donne est encore plus importante. Avoir la suprématie des tribunes, c'est gagner une première bataille et faciliter la victoire des joueurs. Ian McGregor, le policier, n'est pas bien loin. Il observe ce qu'il se passe et une chose plus que les autres le tracasse. Il y a un manque criant de forces de sécurité pour protéger ce grillage brinque-ballant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est sommaire comme moyen de protection. Ce grillage, McGregor ne le mettrait pas autour de sa maison. Alors dans un stade, ça le laisse pantois. La suite des événements risque bien de le conforter dans son impression. En effet, les forces de sécurité ont un gros problème. Plus que le fait d'être en sous-nombre, elles sont surtout loin d'être prêtes. Le ESL n'a hérité que de personnel de réserve, qui ne connaît pas la gestion d'événements de ce type, et encore moins la pression des hooligans. Terry Wilson et les siens, devant ce manque criant d'encadrement, ne vont pas se faire prier pour s'en donner à cœur joie. Oui, mais voilà, la tribune Z n'est pas composée en majorité de supporters radicaux de la Juventus de Turin, bien au contraire. On y trouve des couples et même des enfants. Mais de cela, les hooligans de Liverpool dans mon cœur. Eux, ce qu'ils voient, c'est que le grillage maigre va certainement céder et qu'ils vont pouvoir, en enjambant la structure, aller en découdre avec leurs adversaires du soir. Les gendarmes, eux, sont rapidement débordés. Les sections présentes paient les heures supplémentaires des troupes formées au maintien de l'ordre et qui ont suivi pas à pas la visite du pape Jean-Paul II quelques semaines plus tôt. Bientôt, une étincelle que personne ne semble pouvoir réellement détecter, mais le feu aux poudres. La tribune Z est envahie par une nuée de supporters de Liverpool qui provoque un énorme mouvement de panique. Les gendarmes, comme ils le peuvent, tentent de faire barrage. En vain. L'horreur ne tarde pas à poindre. Chaque seconde qui passe est pire que la suivante. Englués dans un coin de la tribune, les personnes qui y étaient précédemment assises se retrouvent bloquées. Les fans de Liverpool, eux, continuent de se jeter sur les tifosi. La pression se fait de plus en plus folle. Ceux qui se trouvent le plus près des murs sautent de plusieurs mètres de hauteur, risquant la blessure, ou pire, s'ils se trouvent en haut de la tribune. Pour les autres, les spectateurs du milieu ou ceux se trouvant en bas, la situation n'est pas plus enviable. Plaqués les uns contre les autres, les fans étouffent. Dans l'impossibilité de respirer convenablement, c'est un cauchemar sans nom qui se joue là, dans la cohue. Certaines personnes présentes dans la tribune, piégées, tentent de se débattre, de faire valoir leur force, mais rien n'y fait. La pression de la foule autour d'eux est trop forte. Et alors que la tribune Z se retrouve au cœur de la tempête, la catastrophe, elle, se profile. Elle sera innommable. 19h30. Sous la pression terrible imposée par la nasse compactée des victimes pressées par les assauts des supporters britanniques, la tribune Z, déjà fragilisée, ne peut plus faire face. Son mur latéral, sous le poids, cède totalement. C'est la terreur qui s'empare de la foule. Des dizaines de personnes sont bientôt prises dans un cercle infernal duquel il est impossible de se tirer vivant. Les moins chanceux se retrouvent au sol, alors que la foule paniquée encore présente dans les tribunes s'échappe. Et si pour ce faire, elle doit piétiner celles et ceux qui sont tombés, eh bien, elle le fait. Asphyxiés, écrasés, des dizaines de spectateurs venus passer un bon moment deviennent les instruments de l'horreur. Les gendarmes, tant bien que mal, tentent de maîtriser les événements, mais c'est le principe même d'un mouvement de foule. Il est impossible, impensable, de le juguler. Et le Hesel, hélas, n'échappe pas à cette règle. D'autres, trop près du mur qui s'est effondré, font une chute dans le vide incontrôlée et s'écrasent contre le sol. Pourtant, ce mur qui s'effondre, vétuste, et certainement plus aux normes, va sauver des vies. C'est incontestable. C'est la panique, l'écrasement, l'asphyxie qui tue au Hesel. Pour autant, cette catastrophe localisée à la seule tribune Z ne concerne pas tout le stade, bien au contraire. Les VIP dans les loges prévues à cet effet se rassemblent et participent à l'avant-match. Les violences, pourtant, ne cessent d'aller croissant entre les parties impliquées. Il faut dire que la sécurité, une fois de plus, n'est pas au niveau. Voilà près d'une heure que les événements ont débuté, que des renforts auraient dû arriver en trombe. Il n'en est rien. Les pompiers, au bout de la tente, finissent par arriver, mais tout est désorganisé, rien n'est sous contrôle. La rumeur des charges anglaises parcourt le stade tout entier, ce qui provoque, histoire d'en rajouter une couche, une réaction des Italiens. Les tifosi ne tardent pas à envahir la pelouse, à provoquer à leur tour les supporters de Liverpool. Police et gendarmerie ne sont pas coordonnées, les secours non plus. Les minutes s'étiolent et personne ne semble prendre la mesure du problème, alors que l'on sait maintenant que des morts sont à déplorer. Les blessés, eux, se chiffrent en centaines. Ce qui devait être une grande fête devient une innommable catastrophe. Les officiels, eux, se réunissent face à l'ampleur de la situation. Pour organiser l'évacuation des blessés, évacuer le public dans de bonnes conditions, ou même préparer l'envoi des corps des personnes décédées à l'hôpital le plus proche. Non. Cette réunion est organisée pour savoir si le match doit ou non avoir lieu. Les officiels, en effet, viennent à se demander s'il est bien raisonnable de jouer un match de foot dans ces conditions dantesques. Et la réponse, certainement, risque de vous surprendre. Pendant ce temps-là, la gendarmerie à cheval entre sur la pelouse, n'est que peu efficace. Du côté des joueurs, deux salles, deux ambiances. Ceux de Liverpool ont été mis en sécurité dans les vestiaires et au milieu des policiers. Leur entraîneur tente de calmer les hooligans. Ceux de la Juve, en revanche, avertis de l'horreur, se précipitent sur la pelouse pour savoir ce qu'il se passe. Eux aussi tentent de calmer la foule qui, majoritairement, souhaite ne pas les voir jouer. À 20h, alors que tout le monde est persuadé que le match va être annulé, on annonce un premier bilan de plus de 30 morts et de centaines de blessés. Les heurts vont encore durer de longues minutes. Une décision sur la tenue du match n'est toujours pas prise. C'est le commandant de la gendarmerie qui, au tout dernier moment, entérine la décision. Le match va se jouer, car c'est le meilleur moyen d'éviter des troubles supplémentaires dans le stade et au dehors. Pour ce faire, il faut néanmoins mobiliser toutes les forces de police disponibles. Le soleil est presque couché. Les troubles ne cessent pas et il est impossible d'entrer sur le terrain. Les joueurs font des appels micro alors qu'il est plus de 20h30 afin de pouvoir ramener le calme. Mais rien n'y fait. Finalement, les deux équipes pénètre sur la pelouse à 21h45. À quelques mètres d'eux, au pied de la tribune Z, certains corps n'ont pas encore été évacués. Aucun des joueurs ne se décide à renoncer. Le match doit se tenir, alors il se tiendra. Les équipes dirigeantes de Liverpool et de la Juventus n'ont émis qu'une condition: que le résultat, quel qu'il soit, compte. Jouer une finale pour du beurre, hors de question. La jouer pour un titre, même avec l'apocalypse autour du terrain. Cela, ils l'ont rendu possible. Le match commence donc et le résultat, face à l'ampleur de l'horreur, ne peut qu'être anecdotique. 0-0 à la fin de la première mi-temps. Puis, au cœur de la seconde, un pénalty très généreux accordé à la Juve, que Platini transforme. 1-0 pour les Italiens. Une partie du stade exulte. La vieille dame, comme on l'appelle, parvient à tenir le résultat et remporte, par là même, sa première coupe des clubs champions. Les scènes suivant le coup de sifflet final sont particulièrement ahurissantes. L'équipe qui vient de gagner, comme si de rien n'était, célèbre la victoire avec ses supporters, faisant fi de la catastrophe d'avant-match. Le stade est totalement cerné par les airs et sur terre. Les supporters anglais, manu militari, sont reconduits illico presto à la frontière. Et la fin du match, heureusement, se passe sans heurts supplémentaires. Mais les victimes, elles, ont vécu l'horreur. Et la justice, c'est une évidence, ne va pas tarder à s'en mêler. Il va falloir trouver des coupables et les punir fermement. Avril 1989, Bruxelles. Voilà déjà plusieurs années, près de 4 ans déjà, que les morts du Heysel hantent le spectre médiatique et politique de tout le pays. Aujourd'hui plus que jamais, JT, journaux, radio, tous parlent des événements tragiques qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes en 1985. Et pour cause, le procès touche à sa fin. Un an d'instruction, de déballage parfois peu glorieux pour les instances du football et les politiques nationaux, de mise en accusation des hooligans anglais. La cour s'apprête à rendre son verdict. Il s'annonce lourd. Terry Walton, reconnu à l'aide des caméras et à la suite d'une dénonciation anonyme, se retrouve sur le banc des accusés. Lui et ses camarades de différents groupes de supporters radicaux des Reds attendent, tête basse, la sentence. Lorsque le président de la cour pénètre dans la salle, tous se lèvent et restent silencieux, suspendus à ses lèvres. L'homme s'éclaircit la voix, réajuste ses lunettes en demi-lune et fermement. Abat les foudres de la justice sur la tête de ceux jugés coupables. Sur les 26 hooligans inculpés, 14 sont condamnés à des peines de prison et de lourdes amendes. Walton est l'un d'eux. Les autres, en revanche, à la faveur d'images partiellement utilisables, sont acquittés. Les parties civiles, dorénavant, attendent des mesures contre les autorités, qu'elles soient nationales ou footballistiques. Là, elles vont être déçues. Ni le bourgmestre de Bruxelles, ni même l'UEFA ne sont inquiétés dans cette affaire. Elles sont vent debout à la sortie du tribunal et réclament un nouveau jugement. Les différents intervenants doivent payer pour les errements sécuritaires qui ont été commis et qui ont coûté la vie aux spectateurs ce soir-là. L'UEFA, elle, doit aussi répondre de ses actes. Comment a-t-elle pu pousser pour obtenir la tenue du match alors même que des corps gisaient à quelques mètres du terrain? La nouvelle ne tarde pas à tomber. Il y aura un procès en appel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'annonce au moins aussi houleux que le premier. Un an après, au début de la décennie 1990, rebelote donc et les parties sont de nouveau convoquées pour le procès en appel des événements du Hesel. Les hooligans condamnés en cette occasion espèrent voir leur peine réduite ou même, pourquoi pas, être acquittés. Bah, ils vont tomber de haut. En effet, la justice se montre d'autant plus ferme. Non seulement le deuxième jugement confirme les peines, mais plus encore, il les alourdit, notamment sur le plan financier. Plus encore, la Cour n'oublie pas cette fois de pointer du doigt l'UEFA et le responsable de l'instance de football européenne est condamné à de la prison avec sursis et à plusieurs dizaines de milliers de francs belges d'amende. Le montant des indemnisations, lui, est fixé à la coquette somme de 250 millions de francs belges. C'est énorme. L'État responsable des installations du Hesel doit verser près de 43% de cette somme. 5 ans après les faits, les responsabilités sur les circonstances du drame sont donc définitivement établies devant les cours de justice du pays. Ni les organisateurs, ni les forces de sécurité de notre pays n'ont été considérés comme responsables. Non, le juge et la cour ont choisi d'incriminer des responsables dans les rangs des supporters, avant toute chose. Les hooligans de Liverpool, 14 d'entre eux du moins, ont été légalement considérés comme responsables. Chacun d'entre eux s'est vu condamné parfois à de lourdes peines de prison. Et pour cause. L'accusation est lourde de sens. Homicide involontaire. Assez loin d'être anodin. Terry Wilson, l'un des personnages de notre histoire, est l'un de ses condamnés. Pour sa violence et ses gestes provocants, il écope de 3 ans de prison, dont la moitié avec sursis. Il passera 9 mois derrière les barreaux et, comble de l'horreur, continue de clamer aujourd'hui encore qu'il n'a fait que donner quelques coups de poing. Ben voyons. Ce match, opposant 2 des meilleures équipes du vieux continent, c'est avant tout le récit d'un drame, ce qui fut parfois oublié par les différents intervenants. la tribune Z fut le tombeau de 39 supporters. 32 sont italiens, 4 sont belges, 2 sont français, 1 est irlandais. Cuisiniers, médecins, facteurs, soldats, taxis, mécaniciens, fermiers, ouvriers, étudiants. L'Europe de tous les horizons s'est rendue à Bruxelles ce soir-là, afin d'assister à un match de foot. Les événements du Hesel, au fond, sont aussi une incarnation de ce que peut être la bêtise humaine dans toute sa splendeur. Platini, le héros de cette soirée côté terrain, n'hésite pas à parler d'un drame de vie lorsqu'il évoque dans une interview pour Europe 1 cette soirée de mai 1985. Il ajoute également qu'il était nécessaire de jouer ce match au risque de faire face à une guerre civile dans les rues de la capitale du royaume. Alors pourquoi, me direz-vous ? Question légitime. Relâcher des dizaines de milliers de supporters chauffés à blanc hors de l'enceinte aurait été une prise de risque immense. Même si près de 40 personnes venaient de perdre la vie juste avant le coup d'envoi. En tous les cas, la justice belge s'est voulue impitoyable sur ce dossier, pointant notamment le fait que le Hesel ait été choisi comme enceinte de cette grande finale. Vétuste. Malgré la campagne de rénovation de la fin des années 70, le stade l'était, cela ne fait aucun doute. En témoignent les morceaux de béton présents dans les gradins et utilisés comme projectiles. Sportivement parlant, l'Angleterre ressort affaiblie de cette séquence. Le gargantuesque Liverpool se voit privé de participation aux Coupes continentales, tenez-vous bien, pendant 10 ans. Bien que la peine ait finalement été ramenée à 6 ans, la peine sportive est très lourde pour le club mythique de la Mersey. Ils ne sont pas les seuls. Bientôt, ce sont tous les clubs anglais qui ne pourront participer à aucune compétition continentale, et ce, durant 5 ans. Quoi qu'il en soit, le récit officiel des événements semble indiquer clairement que les hooligans anglais sont les responsables principaux de la tragédie. C'est en effet à la suite d'une attaque violente de leur part que les dernières digues de protection ont cédé. Il ne faut pas éluder cependant que certains des supporters de Liverpool, condamnés par la justice, ont toujours défendu une autre version. Celle que les supporters de la Juve infiltrés dans la tribune Z ont provoqué les premiers en s'attaquant à un gamin, supporter de Liverpool, et qui se trouvait parmi eux. Ainsi, l'attaque n'aurait été qu'une réponse jugée proportionnée aux actions des tifosi au cœur de la tribune Z. Pourtant, caméra et justice en ont décidé autrement. L'excuse de l'attaque défensive, en effet, ne semble pas tenir la route. Le stade du Hesel, aujourd'hui, n'existe plus. Les plus jeunes de nos auditeurs le connaissent sous le nom de Stade Roi Baudouin, puisqu'à la suite de la tragédie, une énorme campagne de restructuration de l'enceinte a été effectuée. Celle-ci s'achève peu de temps après la mort du roi Baudouin Ier et à ce titre. Il est convenu que le nouvel antre sportif porte son nom en guise d'hommage. Il accueille aujourd'hui les matchs de nos Diables et celui de nos Red Flames, mais aussi d'autres événements sportifs de grande ampleur, ainsi que des concerts. Les Rolling Stones s'y sont notamment récemment produits. Aujourd'hui, les normes de sécurité ont beau être beaucoup plus sévères qu'auparavant, un mouvement de panique est vite arrivé. Et alors que nos enceintes sportives sont de plus en plus grandes et de plus en plus impressionnantes, il convient de se rappeler toujours que de nombreux innocents, en allant voir un match de football, ont perdu la vie. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.